Je tenais à vous témoigner de ma confiance et saluer votre engagement au quotidien aux côtés des victimes.
Plus qu'un devoir pour nous, ce combat vers leur liberté est une exigence qui doit contribuer à se débarrasser des chaînes entravant les traumatismes subis et à restaurer la dignité des victimes.
La compagnie interdit la solitude.
Allez, Bac FM, on est parti pour notre rendez-vous mensuel Info Victimes. Je suis en compagnie de Jérôme Moreau, président de France Victimes 58, vice-président de la Fédération Européenne et Nationale France Victimes et porte-parole de la Fédération France Victimes. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, un thème qui est celui des victimes à l'étranger, d'accidents tout type de victimes à l'étranger. Et ça tombe, alors, bien avec des pincettes, mais ça tombe bien car hier, c'était la journée européenne des victimes. Avant de revenir sur ce thème, on peut revenir sur quelque chose que vous me disiez tout à l'heure hors antenne. C'est les annonces du garde des Sceaux hier à l'occasion de cette journée. Éric Dupond-Moretti qui a donné quelques annonces, notamment sur les mineurs.
Voilà, donc effectivement, pour la journée européenne des victimes, le garde des Sceaux hier a voulu instituer un parcours victime mineure pour faciliter, on va dire, en fin de compte, le parcours des mineurs dans le cadre de la procédure judiciaire, que ce soit avant l'audience, pendant l'audience, après l'audience. Et l'idée, c'est que plus aucun mineur qui est victime d'une infraction et qui va, en fin de compte, pouvoir être participer à un procès, ne soit seul. Et donc, c'est un accompagnement renforcé avec différentes mesures et un rôle actif des associations d'aide aux victimes en France.
C'est pour aider avant tout psychologiquement aussi le mineur dans cette démarche, que ce soit avant et après le...
Tout à fait, psychologiquement. Et puis, on va avoir la présence des associations qui vont être là pendant l'audience, puisque c'est compliqué pour le psychologue d'agir pendant l'audience. Mais en tout cas, le mineur ne sera pas seul dans le prétoire.
Ça participe notamment à ce qu'on appelle les victimes à l'étranger, parce qu'on peut être mineur et victime d'une violence telle qu'elle soit à l'étranger. Comment justement l'Europe protège ces victimes-là?
Alors aujourd'hui, on a une directive de 2012 qui impose un standard minimum des droits fondamentaux pour les victimes dans l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne. Cette directive prévoit notamment l'accès à des associations ou services d'aide aux victimes. Cette directive prévoit également le fait que les victimes ne doivent pas rester seules face à leur infraction et donc que les services en charge de la prise des plaintes et les magistrats doivent écouter cette parole, doivent les accompagner et les orienter. Cette directive pose également l'idée d'évaluation de la situation des victimes avec des dispositifs de protection, ce que nous avons mis en œuvre en France par les mécanismes d'évaluation des victimes. Alors c'est un peu technique, mais en tout cas l'idée c'est qu'une association d'aide aux victimes en France, lorsque des femmes seront victimes de violences conjugales, eh bien elles vont être entendues par l'association et puis un rapport sera rendu au procureur, qui est une pièce d'ailleurs dans le dossier pénal, et puis cette pièce pourra poser l'idée d'un dispositif de protection comme les téléphones grave danger. Donc ça a été une amélioration considérable. Et puis cette directive pose aussi l'idée d'une information sur les droits, que ce soit les droits tout au long de la procédure ou des droits plus anecdotiques comme la possibilité d'avoir recours à des services de santé, enfin anecdotique, en tout cas plus annexe, le droit à avoir recours à des services de santé, le droit à avoir recours à des psychologues, parce que tout ça est, vous l'imaginez bien, extrêmement difficile, extrêmement différent d'un pays à un autre, et voilà.
Oui, c'est parce que c'est ça le problème. Donc déjà, les États membres de l'Union européenne, ils doivent tous garantir des droits suffisants. On reviendra dessus sur lesquels, mais c'est ce que vous disiez, le droit à la santé, etc. Mais il y a le problème de cette législation qui est différente d'un pays à un autre. Comment toutes ces législations-là sont harmonisées?
Alors, les législations vont être harmonisées au regard de cette directive de 2012 et après, chaque État membre fait ce qu'il veut. C'est le principe de souveraineté des États membres en matière de justice. Et effectivement, par exemple, vous avez en Irlande des services qui sont plutôt accrochés au ministère de la justice et des libertés. En Allemagne, ce sont des associations qui fonctionnent sans aucun fonds public et uniquement avec des dons. Et Weissering en Allemagne est une association extrêmement puissante, hein, puisqu'elle porte le numéro, par exemple, d'aide aux victimes, le 116-006, sur uniquement des dons aux associations. 28 000 volontaires, par exemple. Enfin, on parle de voluntaries en Angleterre, en anglais. Donc, voilà, 28 000 volontaires bénévoles en Allemagne qui accompagnent à peu près 500 000 victimes. Donc, vous voyez que c'est extrêmement différent. Alors, évidemment, on est dans les pays qui, sur le plan des législations, sont extrêmement novateurs et extrêmement pionniers. Mais c'est beaucoup plus compliqué en Pologne, en Hongrie, où là, effectivement, on a quand même quelques difficultés à faire que ce minimum de droits soit garanti pour les victimes.
Alors ça vient peut-être aussi de la qualification des acteurs du droit qui est différente selon les pays. On reviendra aussi dessus tout à l'heure. Mais avant, pour contextualiser tout ça, quelle violence est la plus présente en Europe ?
Alors aujourd'hui, très clairement, on identifie les violences conjugales et une directive sur les violences conjugales a été publiée d'ailleurs par la Commission il y a quelques semaines. Donc on voit bien que c'est l'un des défis majeurs d'Ursula von der Leyen, hein, la présidente de la Commission européenne, qui veut poser cette violence comme quelque chose qui est absolument intolérable et qui doit être combattu, et ce, à juste titre, je voudrais le redire. On peut aussi voir quand même que les violences sur les mineurs et sur les enfants en particulier extrêmement jeunes est extrêmement présente en Europe et fait l'objet pour le coup d'une diversification d'actions en Europe. Et on voit par exemple les Pays-Bas ou le Danemark qui est extrêmement en pointe sur ces questions-là alors que d'autres ne le sont pas. Donc c'est quand même très difficile et c'est pour cela qu'il faut des directives au niveau européen qui viennent en fin de compte sauvegarder ces droits fondamentaux pour les victimes et notamment pour les plus vulnérables.
Et dans ces droits qu'ils doivent garantir, il y a notamment le dépôt de plainte qui sont malgré tout plus ou moins faciles à déposer selon les pays.
Alors effectivement, les dépôts de plainte est compliqué d'un pays à un autre. D'abord, on a quand même deux grandes branches du droit, le droit français et le droit anglo-saxon, avec différents pays, donc les 27 pays membres.
Et il peut y avoir cette barrière de la langue aussi. Si parfois, alors, pour un Français qui va, par exemple, dans un pays, ça peut être les Pays-Bas, ça peut être l'Angleterre, ça peut être l'Espagne, il y a cette barrière de la langue aussi qui peut poser problème.
Alors, ce qu'on remarque souvent, c'est quand même que les Français ou les étrangers en France hésitent à déposer plainte dans le pays dans lequel c'est commis l'infraction. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et généralement, quand on vous vole vos papiers ou votre argent, vous ne déposez pas plainte dans le pays de crainte de la barrière de la langue, de crainte de toute façon que vous y reviendrez pas, enfin que la procédure va être compliquée, enfin etc etc. Donc c'est effectivement une vraie problématique. Mais c'est bien dommage parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut quand même poursuivre des auteurs d'infractions, quel que soit le lieu dans lequel vous êtes. Et ce qu'il faut, c'est toujours déposer plainte dans le pays étranger. Et après, il y a des solutions pour pouvoir avoir accès à votre dossier.
Mais ça permet de marquer une trace aussi sur...
Oui, et puis ça permet de protéger vos droits. Aujourd'hui, vous déposez plainte dans le pays où a été commis l'infraction, quel que soit ce pays, que ce soit en Europe ou à l'étranger. Et puis après, vous redéposez plainte en France. Et puis, vous avez des magistrats de liaison, ce qu'on appelle au niveau international. Donc, c'est des magistrats qui ne travaillent qu'avec des pays étrangers et avec des magistrats étrangers. Et on va implémenter ce qu'on appelle un dossier miroir. C'est-à-dire que en France, vous aurez un dossier qui sera exactement celui dans lequel le pays dans lequel l'infraction a été commise. Donc, et ces magistrats de liaison sont en charge de suivre ces dossiers et ces plaintes, et notamment en charge du suivi des dossiers miroirs et puis de la procédure après attenante à ces dossiers.
Et cette prise en charge, elle peut être différente selon les pays, de l'État membre européen toujours. Les qualifications pour être acteur du droit, elles changent selon les pays, et c'est aussi ce qui influe sur une prise en charge différente.
Oui, on l'a bien vu d'ailleurs avec les procès de Londres et l'affaire du London Bridge, où effectivement les victimes au départ n'avaient pas accès à leur procès, puisque en Angleterre par exemple, vous ne pouvez pas rentrer dans une salle d'audience tant que vous n'y avez pas entendu que vous soyez victime ou témoin. Donc effectivement la procédure peut changer d'un pays à un autre. Alors moi je ne critique pas, parce que voilà, le droit anglo-saxon a aussi quand même des avantages que nous n'avons pas en France.
Comme
donc, voilà. Comme la facilité de pouvoir investiguer quand vous êtes victime et à tout moment de la procédure de pouvoir apporter des preuves qui ne sont pas passées par les fourches caudines d'un magistrat. Donc on a quand même quelques souplesses quand même. Mais voilà, après on a choisi un système qui est tout aussi protecteur mais qui est différent en tout cas. Et certaines infractions ne seront pas reconnues, hein, quand même, dans un certain nombre de pays d'Europe. Notamment, par exemple, on voit bien les restrictions en matière de viol, par exemple, que vient imposer la Pologne, ou en matière de violence conjugale. Donc, effectivement, d'un pays à l'autre, les qualifications juridiques vont changer, voire même des infractions seront inexistantes.
15% des Européens sont victimes d'actes criminels. Ils diffèrent plus ou moins en fonction des pays. Quel pays en Europe ? Est-ce que France Victime a des données sur les pays en Europe qui sont, qui sont le plus touchés par les violences ?
Alors, d'abord, je voudrais revenir sur la notion d'acte criminel, puisque effectivement, en Europe, on parle de crime, qui est l'infraction en anglais. Donc, on parle d'acte criminel, mais voyez bien que ce sont toutes les infractions lorsqu'on parle d'actes délictueux en Europe.
Le crime n'est pas forcément...
Non, le meurtre ou l'assassinat. Bien sûr, voilà. D'ailleurs, en France, le crime est une autre définition. Mais en tout cas, acte criminel, c'est phénomène infractionnel en anglais. Le Victim Support Europe examine, oui, effectivement, la Fédération France Victime n'a pas à le faire. On s'occupe déjà de la France. Mais effectivement, on voit des grandes évolutions et on voit aussi quand même une tendance à aller sur des violences physiques qui sont de plus en plus accompagnées et sur l'idée qu'on va également accompagner les mineurs. C'est les deux grandes tendances de l'Union européenne. D'un côté, les violences domestiques, ce qu'on appelle en Europe, et de l'autre côté, les violences sur mineurs. Quelles que soient ces violences, parce qu'il y a un certain nombre d'infractions qu'on met moins en lumière en France et c'est pas tellement juste, mais on a quand même beaucoup de mineurs qui sont victimes de trafic, on appelle ça trafficking, qui font que effectivement on a des réseaux de prostitution, des réseaux d'esclavage, et voilà, qui existent et qui sont quand même peu dénoncés en France, en tout cas qu'on voit moins en tout cas.
Comment on explique aussi cette notion, ce qu'on dit des pays du Nord qui sont beaucoup moins touchés par les violences que les autres pays?
Alors,
je pense notamment aux Pays-Bas, à la Suède.
Oui, alors la Suède, on va peut-être nuancer, parce qu'aujourd'hui la Suède est quand même touchée par les phénomènes criminels de manière un peu bizarre et en augmentation fulgurante. Mais effectivement, on a un certain nombre d'infractions qui n'existent plus. Je pense aux Pays-Bas, par exemple, les vols dans les restaurants, aucune infraction en 2022. Voilà, donc... vous expliquez pourquoi et comment. Il y a certainement des politiques de prévention et une vision éducative et préventive extrêmement importante. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que effectivement, on a plutôt l'habitude de dire que les pays nordiques sont plus respectueux de la dignité des personnes, que le niveau de vie est sans doute de meilleure qualité et donc entraîne sans doute moins d'infractions que des pays latins. D'abord, qui ont été très certainement élevés dans une culture où les rapports entre hommes et femmes étaient un peu différents et n'étaient pas égalitaires, et puis où un certain nombre d'infractions n'étaient pas forcément graves alors qu'elles l'étaient et qu'elles constituaient des crimes. Et je pense par exemple à tout ce qui est violence sur mineurs dans un certain nombre d'institutions dont on savait qu'elles existaient, qui n'ont pas été réprimées. Et donc, très tôt, des pays du Nord n'ont jamais toléré ça. Et ça explique aussi sans doute qu'on a des phénomènes infractionnels qui soient un peu moins importants. Encore une fois, on va voir comment ça va se passer avec le temps. De l'autre côté, on a des politiques de prévention et des politiques de dénonciation qui sont extrêmement différentes. Et les Pays-Bas, font quelque chose d'assez formidable sur les outils numériques à destination des jeunes.
La France pourrait prendre exemple de certaines...
Bien sûr, on le fait déjà avec notamment les téléphones grave danger qui sont venus directement de l'exemple espagnol.
Si on se recentre sur les démarches, quelles démarches propres à tous les pays d'ailleurs, doit faire une victime dans un pays européen qui est étranger aussi, hein?
Toujours déposer plainte. C'est la première des choses.
Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure.
Ouais. Même il faut si déposer fois, plainte, même si c'est compliqué, même si c'est... Voilà. De toute façon, il y a un réseau européen des associations d'aide aux victimes. Donc, un Français victime d'une infraction à l'étranger doit toujours déposer plainte. Alors si c'est pas possible pour des barrières de langue, parce qu'il est éloigné, parce qu'il sait pas comment s'y prendre, qu'il appelle toujours France Victime.
Et alors là, c'est une question plus pour hors Europe, mais les droits des victimes européens, ils s'appliquent sur le sol européen pour tous les étrangers ou uniquement pour les Européens?
Ah non, pour toute infraction à l'étranger. On ne peut pas imaginer, par exemple, qu'un étranger en situation irrégulière serait tué, par exemple, et qu'il n'y ait aucune poursuite de la part de ses agresseurs. Donc évidemment que le droit national ou européen, mais bon, le droit national puisque c'est plutôt lui qui est en charge de la qualification des crimes et des délits, s'applique quel que soit le statut des personnes. Vous imaginez bien qu'encore une fois, un Français ne peut pas invoquer qu'une femme sera en situation irrégulière pour demander l'acquittement lors d'un procès de viol, par exemple. Donc non, ça ne fonctionne pas. Donc, et heureusement d'ailleurs.
Est-ce que c'est possible de déposer plainte, on revient sur les dépôts de plainte, en France pour un fait à l'étranger, hors Europe?
Alors, encore une fois, c'est pas la procédure normale. Il faut déposer plainte dans le pays étranger, parce qu'il faut quand même que l'infraction existe.
Une personne qui subit même un simple vol, à l'arracher dans un pays, je sais pas,
Sud-américain.
Voilà, exactement. Il faut qu'elle ait déposé plainte dans ce pays-là.
Oui, parce qu'il faut que l'infraction existe. Vous imaginez bien, par exemple, que la notion, par exemple, on va prendre quelque chose de plus simple, une infraction de corruption, par exemple, en France, ne revêt pas la même signification que dans des pays où les choses sont beaucoup moins implémentées et beaucoup moins avancées, dans des pays qui n'ont absolument pas ce type de délit et de crime. Donc voilà, encore une fois, il faut que le pays ait cette qualification juridique et cette infraction. Et c'est la même chose. On va reprendre les excès de vitesse, par exemple. Vous êtes en France, vous êtes limité à 130 sur autoroute, vous allez au Brésil, la vitesse est différente. C'est pas parce que vous roulez à 160 au Brésil que vous êtes en infraction, parce que votre vitesse est limitée à 130 en France. Donc vous voyez, c'est une histoire de qualification juridique dans le pays d'origine.
Comment France Victime, pour finir, accompagne ses victimes, que ce soit pour un fait qui est arrivé en Europe ou hors Europe, encore une fois?
Alors, en Europe, ça c'est simple, puisque nous sommes membres et nous assurons la vice-présidence par moi-même de Victimes Support Europe. Donc, on a un réseau, en fin de compte, des associations dans 33 pays européens. Donc, il faut saisir le national, enfin, ou l'association locale qui saisira le national. Et on saisira une association européenne pour aider et puis pour suivre les dossiers, suivre la victime, etc. etc. Hors Europe, encore une fois, c'est ces magistrats de liaison qui sont en charge du suivi juridique des dossiers. Et puis après, il y a tout le volet qu'on sait faire, psychologique, social et d'indemnisation, donc c'est quelque chose d'important. Évidemment, on a suivi beaucoup. J'aurais rappelé les crashs d'avion, par exemple, où effectivement, pour ce qui reste, c'est très compliqué, puisqu'il n'y a pas les corps, on ne sait pas toujours les circonstances, parfois on n'aura jamais la vérité, en tout cas on aura une vérité, mais qui sera insuffisante. Donc voilà, il faut accompagner tout cela, le deuil, et puis après la perte de quelqu'un au long cours, donc effectivement. Et puis après on a des procès qui vont être longs, qui peuvent se passer 10-12 ans après, parce qu'effectivement c'est toujours très compliqué, les droits ne sont pas les mêmes. Et puis on a également toutes les victimes qui subissent des préjudices à l'étranger. En tête, par exemple, des accidents de voiture où les gens sont tétraplégiques à l'étranger et tout, et où là, c'est effectivement sur le plan indemnitaire des choses qui sont difficiles. Donc, d'où la nécessité d'avoir des fonds de garantie, d'où la nécessité quand même aussi d'être correctement accompagné pour obtenir les bonnes aides, les bons droits au bon moment.
Merci Jérôme Moreau.
Je vous en prie.
On peut retrouver toutes ces informations sur le site aussi France Victime 58, France Victime
National. Surtout.
On peut retrouver toutes ces infos à travers les rubriques.
Et si vous parlez anglais, vous pouvez aller sur le site de Victim Support Europe, où vous aurez également tout ce réseau européen. Mais l'idée, c'est qu'on aide aussi les gens localement lorsqu'ils ont été victimes à l'étranger.
Merci, Jérôme
Moreau. Je vous en prie, merci à vous.
Bac FM tout de suite, c'est le retour du son pop rock sur le 106. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve demain à 13h. Bye.